France Musique. Musicopolis. Le nouveau Met au Lincoln Center. La géographie sociologique de New York est tout à fait changeante. Du nord au sud de Manhattan, les quartiers ont chacun leur personnalité et sont dédiés à une activité ou une autre. Mais tout ça évolue au fil des années et des décennies. Lorsque le premier Metropolitan Opera de New York a été inauguré en 1883, il était situé sur la 39e rue Ouest, très loin de la pointe de Manhattan. Pour les spectateurs, un genre de pôle nord du quartier des théâtres. 80 ans plus tard, dans les années 60, les centres d'intérêt se sont déplacés. Le vieux Met se trouve à présent au pôle sud du quartier. Les théâtres ont migré vers le nord et les endroits chics se sont concentrés à l'ouest de Central Park. C'est là qu'on inaugure en 1966 le nouveau Met, l'élément le plus fastueux d'un immense complexe qui vise à donner à New York le statut de ville culturelle d'exception. Voici longtemps que le besoin d'une nouvelle maison d'opéra se faisait sentir. Dès le début, le Metropolitan de la 39e rue avait paru étroit. À la fin des années 20, l'association de grande fortune qui préside à ses destinées cherche donc un autre endroit pour établir un théâtre plus grand, plus moderne, plus conforme aux attentes d'une grande ville de culture. Mais le krach de 29 arrive, suivi de la Grande Dépression. Il faut se serrer la ceinture, raccourcir la saison et retarder le moment de s'installer ailleurs. Enfin, au début de l'année 1959, la décision est prise de construire le nouvel opéra, dont le coût se montera à près de 46 millions de dollars. La scène sera 6 fois plus grande que celle de l'ancien théâtre, et s'il n'y a guère plus de place assise, du moins l'ensemble sera-t-il plus spacieux, confortable et pratique. Depuis 1950, le directeur du Metropolitan Opera de New York est Rudolf Bing, un impresario britannique d'origine autrichienne, l'un des fondateurs du festival de Glyndebourne et de celui d'Édimbourg. Il veut donner à l'inauguration de la nouvelle maison du Met une splendeur inégalée. Pour l'occasion, il décide de commander un opéra. Mais à qui ? À un compositeur états-unien, bien sûr, mais lequel ? Pourquoi pas à celui qui a obtenu un prix Pulitzer pour Vanessa, donné au Met en 1958. Le compositeur William Schumann raconte que Rudolf Bing a choisi Samuel Barber pour deux raisons. La première est qu'il admire sincèrement la musique de Barber. La seconde est qu'il ne connaît pas d'autres compositeurs américains. Thank you. Rudolf Bing, directeur du Metropolitan Opera de New York, choisit donc de commander un opéra pour l'inauguration de la nouvelle maison, prévue pour 1962, à Samuel Barber. Il lui laisse carte blanche, avec tout de même deux demandes. Il devra écrire une œuvre à grand spectacle pour mettre en valeur toutes les merveilles techniques de machinerie qui seront la marque de fabrique du nouveau vaisseau et, si possible, traitant d'un sujet proprement états-unien. Recherche d'un livret, Barber écume les salles de spectacle, voit toutes les nouvelles pièces, lit des scénarios en tout genre, essaye d'imaginer une Pocahontas, un Moby Dick, un Billy Budd. Rien de tout cela ne le satisfait. D'autant plus qu'il lui faut une belle partie de soprano, puisqu'il a décidé de donner le premier rôle féminin à sa chère Leontine Price, avec qui il donne des récitals de mélodies depuis des années. Finalement, c'est le chef d'orchestre Thomas Schippers qui suggère à Samuel Barber comme sujet d'opéra pour l'inauguration du nouveau Metropolitan Opera un Antoine et Cléopâtre, pas vraiment américain, d'après Shakespeare. Rudolf Bing, le directeur, a déjà pressenti l'Italien Franco Zeffirelli pour faire la mise en scène. C'est lui aussi qui se chargera du livret. Il connaît bien Shakespeare et sa production du Falstaff de Verdi vient justement d'obtenir un grand succès au Met. Que demander de plus ? Samuel Barber est un compositeur de l'intime, si l'on peut dire. Un compositeur des sentiments, certainement pas des grosses machines. Il aurait peut-être dû s'alarmer de la profession de foi de Zeffirelli qui affirme « De petits bonshommes en armure et de grosses dames en atours chantant des couplets sur l'Égypte antique ne disent pas grand-chose quand on les envisage au premier degré. C'est grâce à la musique et à la splendeur du décor qu'ils peuvent nous transporter. » Il est vrai que Zeffirelli pense sans doute à répéter le succès qu'il a remporté avec sa mise en scène d'Aïda de Verdi à la Scala de Milan l'année précédente. Et sans doute se souvient-il qu'Aïda aussi avait été composée pour une grande occasion, l'inauguration du Théâtre du Caire. Barber et Zeffirelli s'accordent sur une adaptation du texte de Shakespeare. Et Barber se met au travail. Il se retire dans sa maison de Mount Kisco, à la campagne, au nord de New York. Il se fait un emploi du temps extrêmement strict, limitant courriers et appels téléphoniques à l'heure du déjeuner, pratiquement sans visite. Et il avance. Chaque semaine, il apporte à New York ce qu'il a écrit. La première a été à présent fixée au mois de septembre 1966. Et dès le printemps, les chanteurs commencent à répéter. Léontine Price dit même « Quand M. Bing m'a annoncé que j'allais incarner Cléopâtre pour l'inauguration du Met, j'ai dit adieu à mes amis et à ma famille, coupé tous les ponts et je me suis remise à étudier le chant. »
Thank you.
Les répétitions d'Antoine et Cléopâtre de Barber ont lieu d'abord dans les locaux de l'ancien Metropolitan Opera, puis à partir du mois d'août 1966, dans les salles de répétition du Lincoln Center, où se tiendra dorénavant le Met. Barber n'a pas terminé l'orchestration et il se fait aider par un jeune compositeur. Chaque jour sont livrés les derniers feuillets écrits. La situation est pénible pour les chanteurs, d'autant plus que Zeffirelli, le metteur en scène, ne s'est vu octroyer que 25 jours de répétition. Le directeur, Rudolf Bing, a prévu un programme très chargé pour la saison. 9 productions qu'il faut répéter sur une nouvelle scène, avec de nouvelles machineries, toute une nouvelle organisation. Quelques jours avant l'inauguration, rien ne va plus. C'est ce que dit le directeur du Met, Rudolf Bing, à un journaliste. Je ne crois pas qu'aucun d'entre nous ait vraiment visualisé l'enfer que ce serait. C'est une maison magnifique et je suis enchanté de la voir. Mais elle n'est pas encore prête, techniquement. On parle bien sûr du nouveau théâtre aux actualités. La pièce centrale de la scène du nouveau Met est un plateau tournant autour duquel Zeffirelli a arrangé sa mise en scène. Grâce à lui, il va changer de décor, faire tourner d'énormes accessoires, présenter des armées prêtes pour la bataille. La première d'Antoine et Cléopâtre, de Barber et Zeffirelli, va enchaîner les désastres techniques. Le plateau tournant ne supporte pas les chevaux, les chèvres et les 200 soldats voulus par Zeffirelli. Au dernier moment, il faut habiller les machinistes et les mêler aux figurants pour actionner le système à vue. Léontine Price, affublée d'une robe et d'une coiffure qui pèsent des tonnes, se retrouve enfermée dans une pyramide du décor et elle n'est libérée qu'in extremis pour enchaîner sur son air. Tous les petits pépins inhérents à une production dans une nouvelle salle se succèdent les uns aux autres. Sans parler de l'orchestre qui menace de se mettre en grève et avec qui un accord est obtenu entre le deuxième et le troisième acte. Selon un témoin présent ce soir-là, néanmoins, le public est ravi et trouve que la musique est belle, même s'il n'y a pas d'accord entre la musique et la mise en scène. Pourtant, dès le lendemain, les critiques vont se déchaîner contre l'opéra de Barber. Pour lui, c'est un véritable désastre qui sonnera quasiment la fin de sa carrière. En revanche, on trouve la salle magnifique, ce nouveau Met, avec son plafond doré à la feuille d'or et ses lustres venus d'Autriche. La fin d'Antoine et Cléopâtre de Samuel Barber par le chœur de Westminster, l'orchestre du festival de Spolett sous la direction de Christian Badea. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Et spécialement en ce moment, la page Musicopolis Musique aux États-Unis vous attend. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Manon Houssin pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.